Alors nous allons commencer. Donc je suis très heureuse de vous accueillir à l'auditorium du Centre Sèvres qui est comble ce soir, puisque nous avons dû ouvrir une autre salle pour, où il y a une retransmission en direct. Nous sommes ici très modernes. Nous pouvons suivre, donc vous pouvez suivre la conférence dans ces deux salles en direct. Nous avons les éditions, à l'initiative des éditions Albin Michel, nous avons organisé cette soirée sur les rapports entre psychanalyse et spiritualité. C'est un partenariat donc des éditions Albin Michel avec le Centre Sèvres et la librairie La Procure. Marie Balmary et Jacques Seda nous font l'amitié d'être parmi nous ce soir pour nous aider à réfléchir sur ces passerelles entre psychanalyse et spiritualité. Je vous explique brièvement le déroulement de la soirée. Donc, dans un premier temps, nous nous interrogerons sur ces rapports entre psychanalyse et spiritualité, et puis nous évoquerons longuement l'œuvre de Marc-François Lacan, bénédictin, frère de Jacques Lacan, et dont les éditions Albin Michel ont publié, ont rassemblé les écrits, les deux volumes cette année, « Dieu n'est pas un assureur » et « La vérité ne s'épuise pas ». Tous les livres dont on va parler ce soir, bien sûr, vous pourrez les retrouver sur le stand de la Procure en sortant de la salle. Dans un premier temps, sur ces rapports, interrogeons-nous sur ces rapports entre psychanalyse et spiritualité. Alors ça fait un certain nombre d'années déjà que psychanalyse et spiritualité ne se regardent plus comme des ennemis, et de nombreux psychanalystes ont tenté d'établir des ponts. Je pense notamment à Françoise Dolto, l'évangile au risque de la psychanalyse, mais également dans cette maison, comment ne pas évoquer l'œuvre de Denis Vasse, jésuite et psychanalyse, dont vient de sortir, je crois, je ne sais pas si vous l'avez, Jacques, oui, l'arbre de la voix. Bon, s'il vous plaît, monsieur. Donc, je vous rappelle que le. Voilà. Donc je vous rappelle que le thème de notre soirée, qu'il y ait d'autres personnes qui ne se trompent pas de thématique, c'est bien psychanalyse et spiritualité. Alors les chemins de la psychanalyse et de la spiritualité se croisent de multiples façons. Il faut bien choisir une porte d'entrée. Et je m'adresserai donc à vous, Marie Balmary. Vous avez, à partir de la psychanalyse, vous avez considérablement renouvelé la lecture biblique. On sait bien qu'avec la psychanalyse, comme avec la lecture biblique, il faut se mettre à l'écoute de la parole, à l'écoute de cette importance des mots et de l'interprétation. Mais ce n'est pas la porte d'entrée que je choisirai. Je partirai de la demande des patients. La demande donc d'être en souffrance qui vous sont adressées et qui cherchent au travers de la psychanalyse, mais aussi parfois avec un accompagnement dans l'accompagnement spirituel, qui vous adressent des demandes de guérison et parfois d'ailleurs d'être sauvés, qui attendent d'être sauvés par la psychanalyse. Alors vous dites très bien, Marie Balmary, notamment dans Le Moine et la psychanalyse, que le verbe sauver, est un terme qui ne fait pas partie du vocabulaire analytique. Mais en revanche, c'est vrai que c'est souvent un terme utilisé par les patients quand ils veulent exprimer les bénéfices qu'ils ont retirés d'une thérapie. Je partirai d'un de vos passages, du Moine et la psychanalyse, où vous dites « Quand est-ce qu'il me faut guérir ? Quand je suis malade ? Quand est-ce qu'il faut me sauver ? Lorsque je suis perdu, n'est-ce pas ? Mais être perdu, c'est quoi ? Est-ce que je sais quand je suis perdu, aussi bien que je sais quand je suis malade ? Donc Marie Balmary, si la psychanalyse sauve, de quoi sauve-t-elle ?
Alors Nathalie, vous me posez une question à laquelle que je pose moi-même, mais à laquelle évidemment je ne sais pas répondre. Je sais seulement dire un peu par où je suis passée pour me la poser. Et comment est l'état dans lequel se trouve la recherche dans laquelle je suis pour le moment. Si vous ne m'entendez pas, vous le dites. Ça va ?
Pas assez.
Il faut parler plus près du micro.
D'accord, encore plus près du micro et ce sera mieux, c'est ça ?
Voilà.
Plus fort, non, ça je ne sais pas faire. Je crois que cette question n'a cessé de se poser à moi, guérir et sauver, depuis le jour où j'ai pris conscience que la vie psychique existe bien, et même tellement qu'on peut être malade de l'esprit jusqu'à être mal dans son corps. Et puis j'ai, comme tout le monde, pris connaissance des réponses de la médecine, les médicaments, les hospitalisations, les cures de sommeil, comme on disait à l'époque, et autres pratiques. Et aussi, à côté de tous ces traitements, la psychanalyse cure par la parole. Pour moi, c'était un ovni. Elle me paraissait tellement d'un autre ordre qu'il ne pouvait pas s'agir simplement de soigner et de guérir. À vrai dire, cela me semblait un peu stupéfiant qu'il suffise d'être écouté pour se trouver mieux. Mais alors, de quelle maladie souffrait-on ? Qui puisse ainsi s'améliorer et même disparaître dans ces rendez-vous où l'on pouvait guérir, mais je le mets entre guillemets, précisément parce que quelqu'un enfin renonçait à vous guérir, c'est-à-dire à vous rétablir dans votre santé antérieure, parce que c'est quand même ça que ça veut dire, guérir. Que venait faire la présence d'un autre dans l'affaire ? Si c'était la relation qui était guérissante, alors de quelle guérison parlait-on ? Qu'est-ce qui était guéri, puisque ce n'était pas un organe du corps ? Était-ce du corps ou de l'esprit ? De la jonction entre les deux ? Était-ce même une maladie, le mal dont on souffrait ? J'en étais étonnée et mon entourage devait se lasser de mes questions. Je me souviens avoir dit un jour à un prêtre que des amis m'avaient envoyé voir, sans doute pour arriver à ce que je ne pose plus de questions, ou que je trouve des réponses peut-être. Et j'ai dit à ce prêtre, pourquoi deux métiers, le vôtre et le mien ? Un qui pardonne sans guérir, et l'autre qui guérit sans pardonner. La phrase avait un petit air intelligent, comme toutes les formules symétriques pour des esprits français, mais je sentais bien que cela ne suffisait pas à faire avancer les choses. Seulement, voilà, je ne pouvais pas oublier avoir entendu jadis « Tes péchés te sont remis, lève-toi et marche ». Ce rapprochement entre faute et maladie, pardon et guérison, m'emmenait hors de la science et me mettait dans l'embarras. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ce jour-là que l'homme qui accueillait la jeune chercheuse aux mille questions que j'étais me réponde à sa façon tranquille, c'est-à-dire qu'il a tendu la main vers sa pipe, son paquet de tabac, il s'est installé confortablement dans son fauteuil et sans me quitter du regard, il m'a souri sans un mot. Il s'appelait Joseph Thomas, il y a sûrement beaucoup de gens ici qui l'ont connu. J'ai compris que mes idées provocatrices ne l'inquiéteraient pas et donc que je pouvais continuer à chercher des ponts entre ces deux mystères. À l'époque, je ne le savais pas, mais les deux métiers dont je parlais peuvent correspondre à deux parties d'une phrase, elle aussi balancée, je dois dire, du Nouveau Testament, une des plus connues. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À ce moment-là, je n'avais accès qu'à la traduction française. Le verbe « pardonner », avec l'usage moralisateur qu'on en avait fait bien souvent, était pour moi un obstacle. À ce moment-là, je ne savais pas qu'un jour, le mot grec arriverait jusqu'à moi et que le verbe aphiémi se révélerait tout à fait différent. Aphiémi laisse aller nos fautes ou laisse aller nos dettes, comme on laisse couler les larmes ou les humeurs du corps, dit le dictionnaire. L'évangile parle bien de deux choses, les offenses commises et les offenses subies. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au catéchisme, en partant du devoir de pardonner à autrui, on mettait l'accent surtout sur ce devoir, on permettait rarement aux enfants de prendre conscience qu'ils avaient eux aussi été offensés. Il y avait donc bien une personne à laquelle dire les offenses commises, le prêtre dans la religion catholique. Y avait-il quelqu'un pour dire les offenses subies? Et là se situe, je crois, la première invention de Freud. Elle se manifeste clairement par un désir qu'il avait. Je cite là une collègue, la psychanalyste Monique Schneider, le désir de proposer pour exergue à l'interprétation du rêve, donc son œuvre majeure, la phrase de Goethe, extraite des années d'apprentissage de Wilhelm Meister, « Que t'a-t-on fait, toi, pauvre enfant ?» Donc, c'est cette phrase qu'il voulait mettre en exergue de l'interprétation des rêves. Et ma consœur continue son texte, mouvement d'adoption, de proximité, qui transparaît également dans ce que Wilhelm annonce à Mignon, « Je t'ai prise dans ma pitié ». Il s'agit alors d'offrir à l'autre un berceau psychique, écrit-elle. Alors, que t'a-t-on fait? Ce n'est pas une réponse, une question de médecin. Pardon, je suis tellement habituée à ce que les médecins aient des réponses que... qu'il me pardonne. Un médecin dirait plutôt « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où as-tu mal ?» Mais non, Goethe et Freud avec lui parlent avec compassion, mon pauvre enfant, et ils demandent le récit du mal que « on » lui a fait, qui « on » des inconnus, des gens, quelqu'un a dû faire du mal à l'enfant. Cela n'empêchera pas que cet enfant maltraité devienne un jour peut-être maltraitant, malheureusement. Mais la question ne prête pas à l'angélisme. Elle ne nie pas que l'enfant puisse un jour ne pas être innocent du mal. Elle cherche l'origine du mal, car une chose est absolument certaine, ce n'est pas l'enfant qui a commencé. À lui donc la première compassion de Freud. Où ranger cette attitude? Psychanalyse, spiritualité. Ce premier Freud a déjà découvert l'inconscient, le refoulement, la lecture symbolique des symptômes, des rêves, des lapsus. Mais bientôt, il va quitter la compassion. Il ne cherche plus, officiellement du moins, à poser cette question, ni à creuser vers les sources du bien et du mal, bien qu'en même temps, il ne cesse pas de tourner autour. Pour dire les choses en résumé, donc en simplifiant, il cherche à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'humain. J'ai sûrement oublié d'éteindre mon portable, moi aussi, mais j'espère qu'il ne va pas sonner. Je disais donc, pour dire les choses en résumé, il cherche à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'humain et plus tellement ce qui se passe entre le patient et autrui. C'est le corps psychique dont il s'occupe, pas du corps relationnel, du corps spirituel, si j'ose emprunter ce terme à l'épître aux Corinthiens. Pourtant, la psychanalyse, c'est un dispositif de relation, de cure par la relation de parole. Question, est-ce une relation réelle ou non? Je reprends l'expression récemment employée par un cardinal dans une lettre pastorale. Il souhaite que les communautés chrétiennes puissent offrir des lieux informels de parole aux familles qui souffrent de conflits. Je le cite, « J'ai été témoin de crises qui se dénouaient par la parole. On peut le faire en s'achetant les heures d'écoute d'un psychologue, mais on peut aussi le faire en ayant un réseau de relations réelles. C'est-à-dire que, évidemment, je n'étais pas très ravie de la formule de s'acheter des heures d'écoute d'un psychologue. Certes, Freud a raison, je crois tout à fait avec lui, et Jacques le reprendra peut-être aussi, que l'analyste est là comme une troisième personne. Irréel, pour que le patient puisse être, pour que lui-même puisse être pris par son patient, pour ceux avec lesquels la circulation de la parole s'est brisée. Le psychanalyste se prête à tous les transferts sur sa personne, certes. Mais je crois aussi qu'il n'est pas que ce tiers, changeant de position psychique au fur et à mesure des nécessités et des moments de la cure. En ouvrant la psychanalyse aux dimensions du désir, de la parole, de l'intersubjectivité, Jacques Lacan, à sa manière, nous a permis d'élargir l'écoute de l'analyste à cet invisible qui a lieu. Pour ce qui est de Lacan, il eut fallu être un saint, mais c'est, n'est-ce pas ce qu'il demande lui-même, en réclamant que l'analyste soit un saint ? Il eut fallu être un saint pour ne pas se laisser prendre, comme il a été pris, je crois, au piège de la notoriété, de la séduction, voire de la tyrannie qui guette tous les grands inventeurs reconnus de leur vivant. C'est pour cela que, personnellement, j'aime mieux le premier Freud et aussi le premier Jacques Lacan. Avant qu'ils n'abandonnent l'un et l'autre, l'enfant blessé peut-être pour le moi qui réussit. Pour répondre au cardinal, si l'analyste n'est qu'une oreille achetée, qu'il n'est pas là en tant que lui-même, en forte relation d'altérité, que se passe-t-il ? Permet-il à celui qui vient lui parler d'avoir accès à ce qui n'est accessible en nous qu'entre nous, cette vérité, ce réel dont parle Marc Lacan ? Cette fois, me voilà devant le deuxième verbe de votre question, Nathalie. Je ne peux plus éviter le verbe sauver. Quelle différence ! Et là, je vous dirai comme Simone Veil, je parle de tout cela non tout à fait comme un aveugle, mais comme un quasi-aveugle peut parler de la lumière. Alors, guérir, c'est simple. C'est guérir un corps mortel qui comporte divers appareils, l'appareil digestif, l'appareil psychique, que tout revienne comme avant la maladie. Reste que malade ou pas, tout cela va mourir un jour. Sauver, c'est toujours sauver d'une mort, d'une non-existence, d'un néant. Il y a une phrase d'un poète avec laquelle je suis vraiment d'accord. Ce qui nous sauve ne nous protège de rien, et pourtant cela nous sauve, a écrit Christian Bobin. Permettez-moi de faire de la théologie fiction. Quand avons-nous l'expérience d'être sauvés ? Je dirais pour le moment lorsque nous sommes accueillis de telle façon par un autre et par d'autres que notre être invisible est attesté, confirmé et que nous offrons à l'autre, aux autres, le même accueil. La position scientifique ne suffit pas pour confirmer l'autre. C'est d'un don qu'il s'agit, d'un don de présence mutuelle. Tout à l'heure, Monique Schneider écrivait « Offrir un berceau psychique ». Si la science de notre temps est trop étroite pour reconnaître cette dimension de l'homme, nous ne sommes pas obligés d'y rester confinés. Si certaines religions ont perverti les mots pour dire la vie de l'esprit dans des relations fausses, alors il nous faut trouver d'autres mots et d'autres relations qui permettent l'expérience de l'esprit et ses métamorphoses en chacun de nous au cours d'une vie. Dans notre culture officielle, il n'est pas tout à fait facile de parler ainsi. Et je bénis le temps de la vie où l'on nous accorde en même temps des réductions dans les trains parce que nous sommes plus faibles et où on s'ouvre dans cette faiblesse à la force simple de dire ce qu'on pense. Mais la culture d'un peuple ne vit pas que dans les médias, les écoles, les temples. Qu'un million de gens aillent au cinéma pour qu'on leur raconte l'histoire de moines qui n'obéissent pas aux armes, qui ont le choix, même devant la mort, cela me parle, il me semble, de ce dont je veux parler, je termine avec eux. Cela pose mille autres questions, bien sûr. Comment ont-ils fait, ces moines? Pourquoi sont-ils parvenus chacun et ensemble à ce corps spirituel suffisamment pour qu'il n'ait plus trop peur de quitter le corps qui dit « moi ». Le « moi » tout seul a peur de la mort, je le comprends. Le propre du corps sauvé, je ne sais pas comment dire, c'est probablement qu'il parle vraiment avec d'autres. Alors comment vivre cette métamorphose? Vous savez, c'est le mot grec de la transfiguration, « métamorphosis ». Comment, avec qui, traverser la fracture du « moi » ? Ce passage si difficile que parfois des psychanalystes sont nécessaires, il est nécessaire de les appeler pour accompagner ce passage. Alors peut-être, donnant à l'autre une présence dont le « moi » est brisé, on passera du corps psychique à l'autre corps, celui où circule comme du sang, comme du vin peut-être, la parole. Voilà, Nathalie, ce que je balbutie quand je pense à sauver.
Bon, je me dis que j'ai eu raison de vous poser quand même cette question, parce que c'est vrai que vous nous... bien sûr, vous aurez tout le loisir en fin de soirée, et on accordera un long temps pour adresser des questions à Marie Balmary sur cet exposé très, très riche. Et puis surtout, merci effectivement de nous avoir éclairé sur cette relation guérissante très particulière, très singulière, effectivement, qu'offre l'espace de la cure analytique, où c'est pas simplement effectivement un espace, une écoute, un temps d'écoute acheté, comme vous l'avez dit, mais que c'est peut-être effectivement cette espèce d'accueil inconditionnel qu'il y a dans l'écoute, dans l'écoute analytique. Un psychanalyste me disait souvent, ici, moi, ce que je dis, c'est que dans mon cabinet, tout l'humain est bienvenu. Et c'est ça qui libère peut-être aussi, c'est cet accueil un peu inconditionnel qui ouvre un chemin qui va permettre à des personnes en souffrance de se reconstruire, et peut-être que ça va déboucher sur aussi un chemin qui sera aussi un chemin de rédemption. Enfin, de rédemption telle que vous l'entendez, c'est-à-dire de se sauver d'une mort... Vous n'avez pas employé le terme.
Je n'ai pas osé, non.
Vous n'avez pas osé employer le terme, mais au fond, c'est un retour à la vie. C'est aussi... à une vraie vie. En tout cas, se sauver d'une mort psychique. Mm-hmm. Vous avez parlé de mort psychique. Voilà. Donc, on prolongera l'échange avec vous tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Jacques Séda. Donc, vous êtes également un psychanalyste. Vous êtes l'auteur aussi d'une œuvre importante, notamment là sur Freud. Je pense au « Comprendre Freud » et au « Petit Freud » aussi, qui est sorti chez Armand Collin. Vous êtes également l'auteur d'un article paru dans la revue Études ce mois de septembre, « Freud, l'invention de la cure analytique ». Et je partirai finalement de cet article pour vous interroger un petit peu sur ces rapports entre psychanalyse et spiritualité. Puisque quelque chose m'a frappé dans cet article, vous dites que la psychanalyse n'a rien à transmettre. Aucun savoir, aucune valeur, aucune foi. Donc finalement, nous sommes là très loin de tout catéchisme religieux. Mais vous dites néanmoins que la démarche analytique dans la thérapie relève de ce que vous appelez une attente croyante. Alors je voudrais vous interroger sur le sens que vous donnez à cette attente croyante. De quelle croyance s'agit-il, puisqu'il ne s'agit pas ni de croire en quelque chose ou de croire en quelqu'un?
Merci de cette question. Je vais... essayez non pas de lire un texte, mais d'un peu improviser devant vous, là. Et je vous remercie d'abord de m'avoir invité à écrire cet article pour la revue Études, puisque c'est après une rencontre lors du premier volume de Marc-François Lacan, que nous avons eu un échange, et vous aviez pensé que à la revue Étude, il pouvait être utile pour ses lecteurs d'avoir un texte sur Freud qui décolle un peu de toute la polémique qu'il y a eu au printemps autour du livre de Michel Onfray, que j'ai lu, c'est d'ailleurs le seul livre de lui que j'ai lu. Évidemment, il y a, je dirais, chacun a sa lecture de Freud. Et les philosophes ont rarement, finalement, je dirais ça en toute modestie, compris la démarche freudienne. La démarche freudienne qui est le renoncement à une théorisation pour accéder essentiellement à une pratique et à un espace d'énonciation. Même le livre très honnête de Paul Ricoeur, de l'interprétation, et c'est sur Freud, qui avait provoqué la ire de Jacques Lacan, à la suite de quoi il a publié les écrits. Paul Ricoeur, c'est 65, je crois, et les écrits de Jacques Lacan, c'est en 66. Même le livre de Paul Ricoeur, d'ailleurs j'ai écrit un article là-dessus dans un hommage à Paul Ricoeur, rate un peu la question du freudisme et la question de la psychanalyse. Voilà. Le seul qui se soit un peu approché peut-être de Freud d'un point de vue psychanalytique, c'est Maurice Merleau-Ponty, dont il est en train de, dont Claude Lefort publie actuellement, le livre sort ces jours-ci en quarto chez Gallimard, l'œuvre. Pour répondre à la question de la maladie, de quoi souffre-t-on? Eh bien, la découverte de Freud, c'est que on souffre de son histoire. On souffre pas d'une maladie, on souffre de réminiscence. C'est la formule princeps de Freud dans les études sur l'hystérie. L'hystérique souffre principalement de réminiscence, c'est-à-dire de représentation, et souffre d'une histoire qui n'est pas historicisé, souffre de blanc dans son histoire et souffre évidemment de traumatisme, sans doute, mais n'oublions pas que le premier traumatisme, c'est la séparation. Tout sujet doit se construire dans une dimension de séparation avec l'autre, et on peut dire que tout sujet et dans l'horreur de la séparation. D'où la passion de la désubjectivation dans le groupe, dans un idéal. Dans le numéro des études, je cite d'ailleurs Edgar Morin, qui dit, vous allez me retrouver la référence, citation effroyable, dans laquelle il signale que jusque dans l'horreur qu'elle représentait, il s'était assujetti au Parti communiste pour le salut du genre humain. Au début de son livre, voilà, je vais le citer parce que c'est « Finalement, sous la pression d'un désir de communier, autrement dit de faire corps et de se dissoudre dans un corps collectif, dans la lutte cosmique, de risquer l'épreuve de vie et de mort, je décidais que jusque dans la régression barbare où elle avait puisé son énergie, l'URSS portait en elle l'espoir de l'humanité. Voilà une des modalités culturelles de l'horreur de la séparation. Cette horreur de la séparation est liée intrinsèquement à notre culture et au judéo-christianisme. Je vous cite ici Freud. Vous m'arrêterez lorsque il faudra m'arrêter. C'est une lettre à sa fiancée en 1882. Il est à Hambourg. Il ne peut pas la rencontrer parce que c'est la fête des tantes. Et il lui écrit cette lettre de Hambourg, puisqu'elle habite à Hambourg et qu'elle appartient à une famille extrêmement religieuse. Lui n'a jamais été religieux. parce que Jérusalem avait été détruite il y a bien longtemps vers cette époque de l'année. Suivant, il ajoute avec ironie, suivant du reste un faux calcul. Je n'allais pas avoir le droit de parler à ma fiancée le dernier jour de mon séjour ici. Jérusalem est détruite, mais ma petite Martha et moi vivons et sommes heureux. Et les historiens diront que si Jérusalem n'avait pas été détruite, nous autres juifs aurions disparu comme tant d'autres peuples avant et après nous. Il ajoute cette phrase capitale qui est au fondement de la psychanalyse. Ce n'est qu'après la destruction du temple visible que l'invisible édifice du judaïsme a pu être construit. Donc, l'invention de Freud, ce sera de construire, pour parler comme Dolto, le corps psychique. Le corps psychique qui est l'arrachement au corps maternel et corps psychique qui se construit dans la souffrance à travers les théories par lesquelles l'enfant, dans les théories sexuelles infantiles, va essayer de penser sa spécificité et surtout de penser et d'élaborer sa séparation d'avec le corps maternel. Alors, ce qui est nouveau, je disais le judéo-christianisme, c'est, il y a une phrase dans Pascal, extrêmement sobre, « Le grand Pan est mort ». Pas de commentaire. Mais en note, tous les éditeurs signalent, il s'agit d'une phrase que un berger aurait entendu dans une forêt en Grèce, et Ulgel qui le rapporte, le grand Pan est mort, ça veut dire que les dieux ne sont plus ici-bas. Que donc, nous sommes plus dans la proximité des dieux. Et que nous sommes séparés des dieux. Le monde n'est plus porteur de signification. Le monde n'a plus de sens. D'où la panique. La panique, c'est lorsque il n'y a plus une place assignée pour nous dans l'existence. Donc, tout le travail, et c'est ça le travail qu'on a à faire dans le cadre de notre société, dans laquelle il n'y a plus de référence fondamentale, c'est que le sens est à faire et que chacun a à construire le sens. D'où l'expression attente croyante qu'il introduit dans un manuel de médecine populaire en 1890. Tous les sujets sont en attente croyante, en attente soit d'être interpellés, soit qu'on leur donne une réponse, soit d'être entendus. Et selon la position qu'on prendra, ça déterminera la façon dont le sujet pourra se construire. Donc, le sujet dans le monde moderne et bien des théoriciens du politique ont pu le dire, il n'y a plus de place du pouvoir fixe et assigné dans la démocratie. La démocratie, c'est la fin d'une autorité visible. Donc, le sujet ne pourra se construire, tel est le sens de l'attente croyante, qu'à partir d'un tu qui l'interpellera. D'où, dans la Bible, « Écoute Israël », c'est-à-dire une interpellation. C'est lorsqu'il y a un « tu » que peut se construire un « je ». Mais il n'y a pas de « je » initialement. Le sens est à faire. Voilà un peu comment je répondrai à votre première question.
Merci Jacques Seda. Effectivement, on poursuit cette réflexion sur la singularité de cette relation qui, dans laquelle peut se reconstruire du sens.
Je peux ajouter une chose
oui,
quand même.
Oui, allez-y.
Évidemment, je reprends la citation de Marie, qui signalait qu'évidemment, en psychanalyse, on s'adresse à la drite personne, c'est-à-dire à un tiers. Le tiers qui a été manquant dans notre histoire et pour lequel le psychanalyste doit être là. Non pas in propria persona, mais en tant que le représentant des absents de l'histoire ou des paroles qui ont manqué. Et c'est en acceptant d'être ce représentant que, on peut dire comme le dit Robert Musil, cet homme sans qualité, qu'on peut permettre à l'autre de pouvoir reconstruire ou tout simplement construire son existence. Donc, cette nouveauté, l'hystérique souffre de réminiscence, le corrélat, c'est le fait que ce travail ne peut se faire que lorsque l'analyste accepte d'être assigné à résidence par la parole de l'autre. Autrement dit, on pourra y revenir, mais l'analyste n'a rien à transmettre. Il a à être là pour permettre à l'autre de pouvoir enfin être entendu. D'ailleurs, dans la découverte très lente que Freud fera de la séance de psychanalyse, il pourra dire en 1909 à l'Homora, « Je le laisse libre de son commencement. » Ça, c'est angoissant. « Je le laisse libre de son commencement. » La parole est à vous.
Donc c'est donc à chacun effectivement de reconstruire, de donner du sens. Mais heureusement que chacun n'est pas seul, quand même, voilà. Mais peut-être accompagné dans cette reconstruction. Alors nous allons tout de suite passer à la deuxième partie un petit peu de cette soirée qui est quand même le sens aussi de ce débat et de cette rencontre avec vous ce soir, c'est-à-dire la publication des œuvres de Marc-François Lacan. Donc vous avez l'un et l'autre d'ailleurs, je crois rencontrer et Jacques Lacan et Marc-François Lacan. Alors c'est surtout de Marc-François dont on va parler ce soir. Marie Balmary, vous avez retracé un petit peu cette rencontre dans le moine et la psychanalyse. Et ce qui m'a frappé, c'est la qualité de relation, en fait, que vous parlez beaucoup de cette qualité de relation et de l'accueil que Marc-François vous a réservé, et on sent bien que cela vous touche, et notamment dans la différence avec l'accueil que vous a réservé son frère, Jacques Lacan. Alors, je vous cite parce que c'est quand même extrêmement savoureux. Le psychanalyste m'avait reçu comme un maître reçoit généreusement une étudiante sans université. Mais là où il m'avait permis de m'inscrire, il n'y avait de place pour moi que s'il avait pris en moi la place de ma propre pensée. Si en fait je renonçais à ma propre recherche. Cependant, même déviée et sans suite, cette rencontre m'encouragea. Le religieux, lui, m'avait accueilli comme un chercheur accueille un autre chercheur, pour qu'ils se disent simplement l'un à l'autre, dans leur tâtonnement, leur découverte. Il m'avait ouvert la porte comme un voyageur installé pour un temps accueille un autre voyageur, prenant soin de son bien-être sans lui imposer la discipline de son chemin ni les visions de son propre voyage. Alors peut-être, Marie Balmary, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur cet accueil et ce cheminement que vous avez pu faire avec Marc-François Lacan?
Oui, juste avant de commencer ça, je voudrais dire que peut-être Jacques Seda et moi n'avons pas tout à fait les mêmes positions par rapport à l'exercice de la psychanalyse, en tout cas la façon d'en parler probablement est un peu différente, parce que moi je crois que l'analyste n'est pas que la troisième personne. Il est à deux places à la fois. Il est aussi dans une relation dite réelle, ce qui va faire probablement sauter Jacques. Mais je crois que c'est très important qu'il ne soit pas que ce support de transfert. Mais peut-être que là, je
on verra tout à l'heure, ou on reviendra peut-être là-dessus.
Réduit.
C'est bien. On pourra
d'accord, on fera un débat là-dessus. Ouais. Très bien. Peut-être que je t'ai mal compris. Alors, de Marc Lacan, je voudrais dire... d'abord...
Non, c'est bon.
Non, c'est allumé, mais oui, voilà, oui, je ne sais pas parler oui, plus oui. fort. Et parler fort et penser à la fois, ce n'est pas possible pour moi. Je voudrais juste, d'abord, une des premières. Alors, je ne vais pas revenir sur la tasse de café offerte parce que voilà, c'est une histoire qui est écrite. Passons à autre chose. Mais Marc
pour
Lacan.
Donner envie de lire ton livre.
Oh oui, enfin bon, ça, je peux le raconter aussi. Mais je vais y revenir un peu plus loin. Une des premières choses qui m'a frappée de Marc Lacan, c'est que c'était un mauvais maître. Et ça m'a fait rire quand j'ai lu ce livre. Il y a un chapitre du père archiviste de Ganagobi, donc de son monastère, qui raconte Marc comme professeur. Je vous lis. Au monastère, le frère Marc-François reçut comme obédience l'enseignement de la philosophie aux jeunes moines. Il lui échut aussi la mission d'apprendre à lire et compter à un jeune fils d'agriculteur employé sur le domaine de l'abbaye. Il faut croire que les résultats ne furent pas à la hauteur de ce qu'on attendait du philosophe parisien, car ces deux charges lui furent brutalement retirées en raison d'une absence complète du sens de la pédagogie. Il faudra attendre les années 1980, c'est-à-dire largement la carte senior, pour qu'un enseignement aux novices lui soit à nouveau attribué, non qu'une maturation en pédagogie se soit manifestée, mais parce que le père Lacan montra une réelle aptitude au mode d'enseignement moderne, laissant place au questionnement et à la recherche. Une petite génération de moines lui doit beaucoup dans ce domaine. Ça m'amuse beaucoup de penser que c'est la pédagogie elle-même qui a fait des progrès, et donc il a fallu qu'il attende que les choses aient évolué. Mais ceci m'explique en partie ce que nous avions de commun, de ne pas savoir être un maître pour l'autre, même dans la partie où nous étions censés pouvoir y prétendre. Et vous voyez ce soir que de mon côté, ça ne s'est pas arrangé. Peut-être que je pense à Marc Lacan, d'être le petit frère d'un homme génial ne vous met guère dans cette place d'enseignant au sens assuré, autoritaire du terme. Mais je crois aussi que son trésor était ailleurs. La joie et la force de la présence mutuelle est un bonheur auquel on ne renonce pas pour des satisfactions du moi. Aucun mérite à cela, cette joie est sans commune mesure avec l'autre. Je voudrais vous parler de Marc attentif. Il y a une phrase de Simone Veil que j'aime beaucoup. « L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. » Elle dit ailleurs de la plus pure de la charité. Marc Lacan avait cette attention. Vous savez, il était de ces gens dont le visage devient lumineux lorsqu'ils vous voient. Vous avez l'impression qu'il y a en eux une veilleuse toujours prête pour autrui, comme les vierges sages qui ont toujours de l'huile pour leur lampe. Pour ces gens-là, vous êtes peut-être, sinon l'époux de la parabole, du moins un messager de l'époux. Alors, j'avais écrit cette phrase-là, et je me suis dit, ça ne va pas du tout. Si Marc était là, il me donnerait tort. Tort de diminuer la hauteur de la rencontre, l'importance de chacun, et pas seulement Dieu, chacun dont il recevait la visite comme un présent de grand prix pour lui, son visage étant comme une lampe allumée à chaque fois pour un époux. Marc, Marc et saint Augustin. Il écrit dans une présence dont je peux jouir. Je reprendrai que cette conférence-là parce que c'est sans doute la plus accessible pour moi parce que je ne suis pas formée à la théologie. C'est un commentaire de Marthe et Marie qui est un épisode que j'aime particulièrement, qu'on a beaucoup relu ensemble avec les amis avec lesquels je lis la Bible. Et évidemment, il a choisi Marie, ça ne m'étonne pas de lui. Pour donner une idée de la liberté de pensée de Marc à ceux qui ne l'ont pas lu, je vais vous citer un exemple. Il parle de saint Augustin. Et vous allez voir qu'il y a des frères de l'Église qui ne se laissent pas intimider par ceux qu'on appelle peut-être dangereusement des pères de l'Église. Voilà, le paragraphe s'intitule « La jouissance et le bonheur, les confusions d'Augustin ». Il faut quand même être gonflé pour écrire « Les confusions d'Augustin ». Marc nous rapporte qu'Augustin oppose « jouir » à « user d'eux ». Alors, je vais vous faire grâce de beaucoup du développement pour ne pas allonger les choses, mais juste, Marc écrit « Les réalités dont je peux jouir sont celles qui peuvent être aimées pour elles-mêmes. Les autres, celles dont je peux user, sont des moyens pour obtenir les premières. » Saint Augustin écrit « Jouir, c'est s'attacher à une chose pour elle-même. » Alors, Marc continue. Ayant donné un critère pour distinguer la jouissance de ce qui pourrait être confondu avec elle, Augustin applique ce critère à notre vie. Il symbolise notre vie par un voyage qui nous mènerait dans notre patrie, patrie qui représente la réalité dont nous devons jouir. Pour cela, nous devons user de moyens de locomotion, mais il, c'est toujours Augustin, signale une perversion possible qui consisterait à transformer en jouissance l'usage des véhicules qui nous portent. Bon, ce qui nous détournerait du but de notre voyage. Voilà. Et Marc Lacan a l'audace d'écrire ceci. En écoutant Augustin faire cette application de son critère, qui est vrai, comment ne pas prendre conscience qu'il le fausse radicalement ? Nous venons de l'entendre dénoncer la perversion qui consisterait à jouir de ce dont il faut seulement user. Un tel avertissement est utile. Mais sur quoi Augustin le fonde-t-il ? Sur une confusion. Alors, je vous passe la suite de l'argumentation pour vous montrer le rapport Marc-Augustin. Marc continue. Comment Augustin en est-il venu à une telle confusion ? En réduisant tous les biens autres que le souverain bien, toutes les réalités autres que les réalités éternelles, à être des moyens dont il faut user pour parvenir au bonheur que nous trouverons en saisissant le souverain bien, le seul dont il faille jouir. Faut-il ajouter, écrit Marc Lacan, que cette perspective est celle de beaucoup de nos contemporains qui croient en l'Évangile. Mais cette perspective, que nous en ayons conscience ou non, risque de pervertir la vie humaine précisément en tant qu'elle est voyage, recherche, devenir. Il dit « Pour éviter cette perversion, nous avons choisi une perspective tout autre, celle où le souverain bien ne dévalorise pas les autres biens. Celle où l'acte de jouir des êtres qui sont à aimer pour eux-mêmes est un acte qui donne à notre vie son sens dans le présent. » Et il termine ce point. « Cette présence, celle dont je peux jouir, n'est pas celle d'un autre avec un A majuscule, qui serait la seule dont je puisse jouir. Si nous parlons d'une présence dont je puisse jouir, ce n'est pas pour suggérer qu'il n'y en a qu'une seule, c'est pour affirmer qu'elle est singulière. Ce point est capital. » C'est bien ce que je vous disais. Donc, l'époux pour lui, c'est pas seulement Dieu, c'est tout autre. Et à la fin de sa conférence, Marc dit, hypocritement je dois dire, « Nous laisserons le dernier mot à Augustin. » Là, me suis-je dit, il va se soumettre, se retirer, se taire devant le maître. Or, à peine a-t-il cité une phrase d'Augustin, qu'il ajoute « Je reprendrai volontiers la formule en remplaçant « gaudium » par « gaudere ». Donc, deux mots. Le dernier mot, donc, n'est pas à Augustin. Marc trouve le moyen de ne lui laisser que l'avant-dernier. Marc, c'est le même homme qui vous offre une tasse de café un vendredi saint en oubliant, entre guillemets, de boire la sienne, qui tient tête à un père de l'Église dont la grandeur, tout à fait justifiée par ailleurs, en a écrasé sans doute plus d'un. obéissant et insoumis, le même qui respecte infiniment le frère, même si c'est une femme, et qui fait du père de l'Église un frère à lui, qui ne le privera ni de sa propre pensée, ni de sa propre parole. Alors, je termine avec la mort de Marc, car j'ai eu l'heureuse occasion de rencontrer le père abbé du monastère de Ganagobi, où Marc Lacan a vécu la fin de sa vie grâce à une récente invitation de Jacques Séda et Jean Moutapin. Le père abbé, plutôt le frère abbé selon sa propre signature, m'a raconté la mort de Marc. Et c'est tellement lui, cette mort. Le récit de cette mort se trouve partiellement dans la préface du second livre. Alors, je cite le père abbé, « À son dernier jour, le 5 mai 1994, à 11h du matin, ne dit-il pas à son frère infirmier, « Maintenant, s'il te plaît, fais-moi la toilette des grands jours et ferme la porte à qui que ce soit, je veux me préparer à rencontrer mon Dieu. » À 14h30, le Seigneur était au rendez-vous. Ce que le père abbé n'a pas écrit, mais qu'il m'a dit tout récemment, c'est que l'abbaye en ces jours-là se préparait à une grande fête unique. Elle devait avoir lieu le 10 mai, donc 5 jours plus tard, mais ça on ne savait pas le jour de la mort de Marc. C'était la reconsécration de notre église du monastère, la dédicace, après la destruction en 1792. Vous voyez que c'est un événement qui n'arrive pas souvent. En plus, c'était le millénaire d'un grand abbé de Cluny. Bon. Se voyant mourir, Marc, pour ne pas leur encombrer ses jours, où tous les moines avaient certainement beaucoup à faire, et ne pas leur gâcher la fête, leur a demandé de l'envoyer à l'hôpital. Les moines ont refusé. On vit ensemble, on meurt ensemble. C'est alors pourquoi il a demandé qu'on ferme la porte à qui que ce soit. Autrement dit, ne vous occupez plus de moi à présent. Il a dit seulement ce que vous avez entendu, fais-moi beau, enfin, je veux me préparer à rencontrer mon Dieu. J'ai été très émue de lire et d'entendre cela, d'autant que dans mon livre, j'avais imaginé la mort d'un moine disant ceci, mes amis, je vous quitte, j'ai un grand rendez-vous. Permettez-moi une dernière remarque, quelque chose m'a choquée. Dans le livre, comment comprendre qu'un moine puisse écrire de Marc Lacan qu'il repose au cimetière ? Les moines sont-ils eux aussi abusés par notre culture qui confond la personne avec son cadavre ? Où sommes-nous avec nos paroles faussées à propos des dieux et de la mort, comme dirait Platon ? Il me paraît qu'on est en deçà de Jésus et même en deçà de Socrate. Je ne crois pas que Marc ait jamais été enterré. L'être Marc Lacan est parti dans ce qui est pour nous tous un mystère. Et même si on ne croit qu'au néant, après tout, après la mort, cela dit qu'il n'y a encore personne dans les tombeaux. Vous savez, Socrate dit à Criton... Qu'on ne l'enterrera pas, ne me confonds pas avec ce cadavre. Et il dit à ses amis, portez-vous garant vers Criton, garantissez que je ne resterai pas quand je serai mort, mais que je partirai, je m'en irai. Sache, mon bon Criton, que si l'on ne parle pas comme il faut, on commet d'abord une erreur contre le langage même, et de plus, on fait du mal aux âmes. Signé Platon. Alors, de grâce, ce qu'on laisse derrière soi en partant, certes, a droit à notre respect, mais l'oiseau au lac des cygnes s'est envolé. Il y a encore Marc et l'enfer, après ça j'ai fini, je vous promets. Parce que l'enfer, parler de Marc avec Marc, de l'enfer, c'était un bonheur. Il n'y croyait pas. Ou plutôt, devrais-je dire, je ne peux pas dire que ça n'existait pas pour lui, mais voilà ce qu'il en disait. Il ne croyait pas en un lieu de tourment éternel. Et si je l'ai bien compris, il croyait que nous avons le choix entre être et ne pas être. Nous pouvons choisir l'être par l'être avec, ou aller vers le néant n'étant pas advenu dans la relation à l'autre, à l'humanité. J'ai trouvé une phrase chez Adolphe Guéchet qui me paraît bien décrire Marc. Il y a des êtres dont la seule présence est comme une absolution. Cette absolution que nous donne l'autre et qui va bien au-delà de la simple morale, celle qui nous restitue notre dimension ontologique et théologale. Et je voudrais juste dire en terminant que la rencontre d'un tel être qu'était Marc, tandis que par ailleurs je recevais tant de richesses de l'enseignement de Paul Beauchamp, lui qui était celui-là un professeur, m'a permis de resituer toutes ces richesses dans cette présence-là.
J'ai fini. Merci Marie Balmary de nous avoir fait un peu revivre d'avoir si bien rendu cette présence finalement de Marc-François Lacan, parce qu'en peu de temps comme ça, vous nous avez fait, on a l'impression que la personne est un peu plus parmi nous, hein, de mieux la connaître, surtout si on n'a pas lu encore, si vous n'avez pas lu encore ses écrits, hein, dans lesquels je vous, bien sûr, je vous recommande de vous plonger. Oui, ce portrait un petit peu que vous avez fait de Marc-François Lacan, à la fois, enfin, mauvais maître. Mes disciples, mauvais disciples, ou du moins disciples indisciplinés, hein, vis-à-vis de Saint-Augustin, mais un frère attentif. Alors, Jacques Séda, vous avez également rencontré, vous aussi, Marc-François Lacan, et puis vous êtes occupé de l'édition donc de ses écrits, hein, de rassembler l'ensemble de ses écrits dans ces deux volumes, hein, « Dieu n'est pas un assureur et la vérité ne s'épuise pas »,
Qui sont des termes de Marc-François Lacan. Ce n'est pas des titres que j'ai inventés.
Oui, qui sont effectivement, voilà. Ce sont des paroles, enfin des expressions que l'on retrouve dans les écrits de Marc-François Lacan. Peut-être pourriez-vous nous parler de son rapport, plus précisément, à la psychanalyse, le rapport aussi avec son frère Jacques Lacan. Est-ce qu'ils ont une correspondance? Je sais que Jacques Lacan lui a dédicacé sa thèse à son frère, à mon frère en religion. Je ne sais plus exactement le. Donc, quelles étaient leurs. De quoi était faite en fait cette relation entre les deux frères et.
Ma relation avec Marc-François Lacan est extrêmement brève. Je l'ai vu une fois. Mais lorsque, à la mort de Lacan, j'ai publié un ouvrage collectif chez Fayard, « Retour à Lacan », point d'interrogation, puisque Lacan a inauguré en quelque sorte un retour à Freud dans les années 53, en 53, en essayant de déblayer un peu... Les strates dans lesquelles Freud était un peu enseveli. Et le retour est une démarche philosophique, puisque il y a eu à une époque un retour à Kant, et puis surtout, c'est Husserl qui, en 1900, avait proposé, en introduisant la phénoménologie, un retour à la chose même, un Zur Zarzelt. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas un retour à Lacan. Et à sa mort, étant donné que son œuvre est apériodisée, parce qu'il y a eu des étapes fondamentales, des étapes qui ont été marquées par les événements de sa vie, et des étapes qui ont été marquées aussi par des ruptures institutionnelles, il me paraissait important, en forme d'hommage critique à Jacques Lacan, de faire cet ouvrage. Et cet ouvrage, je l'ai envoyé, évidemment, à Marc-François Lacan, qui m'a répondu par cette lettre, et on a échangé quelques lettres, cette lettre que je mets à la fin du premier volume. J'en cite seulement une phrase. « Ma relation à mon frère se situe au cœur de cette quête qui implique le refus du savoir comme moyen d'accès à ce réel. Notre amitié était de toujours, elle était reconnaissance mutuelle, de deux personnes en quête du réel, et je crois qu'il m'a initié à cette quête. Donc, je trouvais, de toute façon, j'avais lu des écrits de Marc-François Lacan, qui avait une proximité intellectuelle et une sorte de parallélisme entre la démarche intellectuelle de l'un et la démarche intellectuelle de l'autre. Et je pense que Marc-François, qui était de 8 ans plus jeune que son frère, et a été sans doute marqué, mais ça, c'est quelqu'un de l'habit qui pourrait me le dire, par ce qui a été fondateur pour Jacques Lacan, le séminaire de Cogec qu'il a suivi pendant plusieurs années avant-guerre, d'introduction à la philosophie de Hegel, qui a été édité ensuite chez Gallimard par Raymond Queneau, et auquel participait tout ce qui est devenu grand philosophe par la suite, Éric Weil, Merleau-Ponty, Sartre, Aron, etc. Et c'est dans ce commentaire de la phénoménologie de l'esprit de Hegel qu'on trouve cette formule « Le réel, c'est ce qui résiste. Le réel, c'est ce qui résiste, c'est-à-dire que on ne peut pas l'appréhender, que le réel est inaccessible et qu'il y a une réalité dernière qu'on ne peut pas arraisonner. Et il y a cette démarche, je trouve, fondamentale dans la psychanalyse, comme il y a cette démarche du côté de la foi chrétienne. Donc chacun a cheminé à partir de cette formulation. Je trouve que cette phrase que je vous ai citée, « Ma relation à mon frère se situe au cœur de cette quête qui implique le refus du savoir comme moyen d'accès à ce réel. Notre amitié était de toujours reconnaissance mutuelle de deux personnes en quête du réel. » Lorsqu'on est en quête du réel, c'est qu'on ne l'a pas conquis. Donc, je crois que la réalité dernière et ultime est inaccessible. On peut la penser, mais on ne peut pas la saisir. Et il y a ça dans la psychanalyse, et probablement dans le christianisme tel que l'entend Marc-François Lacan. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. Il y a eu de multiples péripéties, difficultés, parce que pour publier son œuvre, ça m'a pris un certain temps, mais je suis heureux d'avoir publié ça, qui me paraît en parallèle à toute la démarche tâtonnante de Jacques Lacan, qui a été aussi, à sa façon, en quête de cette réalité, en quête du réel, le réel comme inaccessible. Chacun a eu une démarche propre et respectueuse de l'autre. Et il est évident que vous évoquiez la dédicace de sa thèse, que je cite dans ma préface, qui est intéressante. Au révérend père Marc-François Lacan, bénédictin de la Congrégation de France, mon frère en religion, qui peut s'entendre de différentes façons, en double sens. Mon frère qui est en religion et mon frère en religion. Or, en 1900, attendez, j'ai amené les textes de Jacques Lacan sur le triomphe de la religion, mais au congrès de Rome en 1974, j'y étais, Lacan a dit: la religion catholique, c'est la vraie religion. Donc il y a un mystère qui peut choquer, mais il a toujours considéré que la religion catholique, c'était la vraie religion. Et il y a un petit volume publié par Jacques-Alain Miller qui s'appelle « Le triomphe de la religion », qui comprend 2 conférences que Lacan avait fait en 1960 aux facultés universitaires de Saint-Louis. Sur qu'il est intitulé « Le discours aux catholiques ». Je vais citer un passage, puisque je disais que la psychanalyse ne transmet rien. Eh bien, pour Lacan, la question de la transmission se pose. Et voilà ce qu'il écrit, mais la transmission, elle se pose pour lui du côté de la religion, pas du côté de la psychanalyse. C'est un texte de 1972, L'étourdi, c'est la dernière écriture qu'il fait. Lacan avait la plus grande difficulté à écrire, et on a essentiellement ces séminaires qui ont été retranscrits par différentes personnes, plus ou moins bien selon le type d'option, compris les éditeurs de ces séminaires. Dans ce texte sur l'étourdi, puisqu'il est question de religion ici ce soir et de spiritualité, voilà ce qu'il écrit. Sans l'homosexualité grecque, par l'homosexualité grecque, il pense à la philosophie grecque, c'est-à-dire Socrate, Platon. Sans l'homosexualité grecque puis arabe, et le relais de l'Eucharistie, tout cela eut nécessité un autre recours bien avant. Mais on comprend qu'aux grandes époques que nous venons d'évoquer, la religion seule, en fin de compte, de constituer l'opinion vraie, l'orthodoxa, l'orthodoxie c'est l'opinion vraie, put à ce matin, c'est-à-dire le savoir psychanalytique, put à ce matin donner le fond dont il se trouvait de fait investi. Il en restera toujours quelque chose, même si l'on croit le contraire, et c'est pourquoi rien ne prévaudra contre l'Église jusqu'à la fin des temps. Je suis heureux de vous lire ça dans cette assemblée. Monseigneur Jacques Lacan, 1972.
Ah, donc il y a bien un catéchisme.
Donc, ça, c'est deux
il y a
ans.
Bien un catéchisme psychanalytique, quand même.
Mais il ne parle pas de la transmission de la psychanalyse.
Non, mais...
Il parle de la transmission de la culture.
Non, mais je parle à la...
De comme pas
vous...
se tromper.
Non, mais c'est vous qui parlez de Monseigneur Lacan. Donc ouais. Je me dis qu'il y a, peut-être quand même un catéchisme
ouais,
psychanalytique.
Un peu.
Ouais. Bon, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux pour ces interventions. Cette dernière intervention de Jacques Seda, je retiendrai effectivement en tout cas, ce qui rapprochait Jacques Lacan et Marc-François, c'était peut-être effectivement ce déficit hein, de savoir pour accéder au réel, à la réalité ultime. Et je crois que c'est dans un de vos articles, d'ailleurs, Jacques, que vous ressaisissez ça, enfin, vous avez une formule un peu saisissante, où vous dites « on ne rencontre ni Dieu ni l'inconscient ».
Donc, c'est dans la revue des deux mondes.
Voilà. Non, pas études, mais bon. Vous ne dites pas tout dans la revue études. Et je pense qu'effectivement, c'est probablement ce déficit de savoir, en tout cas, qui fait toute sa place à cette démarche croyante, qui anime aussi la psychanalyse. Et là, je pense que c'est quelque chose que vous avez Marie Balmary a fait part de certains désaccords avec ce que vous disiez sur la représentation ou le rôle du psychanalyste, mais au moins je pense que là-dessus vous serez d'accord, puisque vous insistez beaucoup aussi, Marie, sur cette part importante faite à la croyance. Vous dites vous-même que dans Freud jusqu'à Dieu, vous avez cette formule, alors je vais le dire, mais peut-être pas exactement comme ça, mais vous dites « croire, c'est croître ». Et donc c'est bien, je crois que c'est cette croyance, effectivement, qui est aussi un crédit, l'acte de confiance fait à l'autre, qui va permettre de croître et de grandir, ou en tout cas de faire ce chemin de reconstruction.
Peut-être que ça permet de discerner quel genre de croyance il s'agit. Si ça fait grandir ou si ça ne fait pas grandir.
C'est,
on reconnaît les arbres à leurs fruits. Alors attendez, je voudrais m'y retrouver un peu parce qu'au fond, moi je suis une mauvaise lectrice de Jacques Lacan parce qu'au bout d'un moment je ne comprends plus rien. Alors, et ça m'ennuie
mais
parce que
de temps en temps
il y a des fulgurances merveilleuses, je me dis mais c'est génial et puis après je suis perdue donc mais c'est pas désagréable d'être perdue mais faut pas que ça dure trop longtemps et puis Et puis que quelqu'un d'autre me repêche, alors je veux bien. Donc, les rapports de Lacan, Jacques Lacan, pardon, j'ai évité la question du croire, mais je vais y revenir. Les rapports de Jacques Lacan avec l'Église sont extrêmement ambigus. Il y a de tout, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jacques, mais il y a de... Mais
dis d'abord ce que tu en penses.
Il y a de tout, oui. J'ai trouvé aussi bien que c'est ce qui empêche de savoir que ça ne va pas. La religion, c'est ce qui empêche de prendre conscience de la souffrance. J'ai trouvé que l'Église était increvable et qu'elle ferait mourir la psychanalyse. Peut-être que j'exagère en disant ça, mais j'ai trouvé un peu de tout et une grande ambivalence de Jacques Lacan, que pour une part d'ailleurs je partage, parce que je vois pas comment on pourrait être des croyants tranquilles ou des incroyants tranquilles. Dans les deux cas, on n'est pas tout à fait bien, parce qu'on n'est pas tout à fait bien sur cette terre non plus. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait bien pour nous. Heureusement, sinon on resterait tout petit, mais c'est quand même... Il me semble qu'il y a dans cette position de Jacques Lacan de la provocation qui attend quelque chose qui peut-être n'est pas venu pour lui, quand ce ne serait que qu'on le remette à sa place. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait un peu débloquer les gens, c'est de prendre autant de place parmi les autres. C'est rare qu'on en y survive bien. Je veux dire, il y a un moment où il faut dire « Attends, tu n'es pas tout ». Moi, je me souviens, quand j'allais au séminaire de Lacan, d'arriver devant cette foule croyante, alors là, vraiment, de gens extrêmement soumis, dévots, j'avais envie d'éclater de rire en disant « Mais attendez, réveillez-vous ». Alors, j'ai repensé à Saint-Pierre qui disait « Relève-toi, je suis un homme, moi aussi ». Voilà, il y a quand même quelque chose de pas en place, j'allais dire, dans cette place du grand scientifique ou du grand savant qui à la fois reconnaît, il parle quelquefois de, par exemple, que l'Église est un endroit où la parole se maintient. Et ça, je suis sensible à un argument pareil. Parce qu'en effet, il n'est pas évident que la parole ne disparaisse pas. Je suis toujours étonnée qu'on parle encore, moi. Je me dis, on aurait pu perdre la parole 10 000 fois vu le nombre de bêtises incroyables qu'on a pu faire depuis que le monde est monde. Eh bien non. S'il y a quelque chose qui se maintient, ça ne peut être que par la parole non pervertie. Bon. Alors, voilà.
Peut-être pendant dans la grande tradition des soirées débats du Centre Sèvres, on tient beaucoup à donner la parole donc au public et à ce que vous puissiez échanger avec les intervenants. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions à leur poser. Donc la dernière partie de cette soirée qui se termine à 9h30, donc on a quand même trois quarts d'heure devant nous d'échange. On va peut-être vous laisser la parole. Alors, on va peut-être prendre des questions par deux ou trois, et ensuite, pour y répondre.
Je peux.
Ah, oui. Un commentaire.
Juste un mot. J'ai mis un exergue de ma préface du premier volume, un texte de Heidegger, d'Asding, La Chose, de 1950. Un chemin est toujours exposé à devenir un chemin qui s'égare. Donc, il faut accepter de s'égarer. Il n'y a pas de bon chemin. Pour suivre de tels chemins, il faut être exercé à la marche. Ça, c'est le côté terrien de Heidegger. On ne s'exerce pas sans un métier. Demeurer dans la bonne détresse, Iflogischkeit, sur le chemin, et fidèle au chemin, bien qu'en errance, apprenez le métier de la pensée. Il y a là tout Marc-François Lacan et il y a là tout Jacques Lacan, à savoir que le chemin... C'est un sentier de forêt, Holzwege, où on peut s'égarer, mais il faut continuer à marcher, et c'est dans ce chemin et en cheminant qu'on apprend le métier de penser. Voilà.
Merci, parce qu'effectivement, entre la place du maître qu'occupait Jacques Lacan ne doit pas faire oublier aussi que effectivement c'était.
Il était le maître pour ceux qu'il voulait.
Alors peut-être une première question. Le micro est parti.
Oui. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de revenir, vous proposiez de le faire, sur la place qu'a le psychanalyste. Vraisemblablement, Marie Belle-Marie avait une autre position que Jacques Seda sur cette figure qu'il incarne en tant que tiers, dans lequel il ne serait pas l'humain lui-même. Enfin, je le dis avec mes mots, je sais pas. Et vous, Marie Belle-Marie, vous auriez une autre perception de ça.
Mais je dois dire que c'est plutôt l'expérience qui m'a enseigné ça, parce que j'ai rencontré divers analystes, comme souvent ceux qui deviennent psychanalystes eux-mêmes. Et il m'a semblé qu'il y en a qui étaient là et il y en a qui n'étaient pas là. Il n'y en a pas eu des dizaines, mais enfin, on peut être dans le rôle de l'analyste, dans la place de l'analyste, mais en même temps ne pas se laisser interpeller vraiment par son patient. Je veux dire que la psychanalyse est née de la médecine, ça se sent. C'est un bon garde-fou en même temps, c'est vrai, mais il y a quand même une différence, je crois, radicale. C'est que le médecin, d'abord, il n'a pas besoin d'avoir été malade pour devenir médecin, ce qui n'est pas tout à fait le cas du psychanalyste. Il a besoin d'avoir fait une analyse pour devenir analyste, c'est-à-dire avoir l'expérience de la parole qui est en lui et qu'il ne connaît pas, qu'il peut confier à un autre, et cet autre va l'entendre et lui permettre de l'entendre à son tour. Alors, je pense qu'il y a mille façons, et chacun a sa façon d'être présent en tant qu'analyste. Il n'y a pas là un devoir, il n'y a pas « il faut être comme ci » ou « il faut être comme ça », c'est justement en dehors des « il faut ». Mais je ne crois pas que... comment dire? Si je savais répondre directement à votre question, c'est que je ne voudrais pas y répondre, j'allais dire. C'est forcément en cherchant et en tâtonnant que je peux le faire, parce que ça peut venir que de soi. Quand on convoque l'autre, qu'on lui raconte quelque chose de très personnel... Et si l'autre est là en fonction de troisième personne, et puis c'est tout, eh bien il y a quelque chose qui ne se passera pas dans la cure. Alors en même temps, il y a un cadre à respecter et qui est tout à fait nécessaire. Mais je crois que l'analyste, le patient convoque l'analyste. Je ne crois pas d'ailleurs que Freud ait toujours refusé la convocation de l'autre, sinon il n'aurait pas... Mais il n'aurait pas trouvé ce qu'il a trouvé. Mais il est capable d'une grande froideur, parfois, à laquelle je ne souscris pas. Et puis, la mise en technique, ce n'est pas qu'une technique, la psychanalyse. Voilà, c'est une façon de vous répondre.
Je donne mon point de vue, alors, qui est évidemment... avec Marie, c'est comme Jacques Chirac et quelqu'un, nous sommes des amis de 30 ans à peu près. Alors, il y a eu des intermittences, donc forcément il y a des différences de point de vue. La psychanalyse n'est pas née de la médecine, elle est née de l'hypnose. Elle est née, d'ailleurs, Freud ne se sentait pas médecin puisqu'il était histologique, il a commencé par les anguilles. Et s'il avait été psychiatre, il n'aurait pas inventé la psychanalyse. Mais c'est en travaillant chez Charcot et surtout chez Bernheim qu'il s'est aperçu de la puissance de la parole. Tout est dans le rapport. Et ce tout est dans le rapport, tout est dans la relation, c'est ce qui préfigure le transfert et l'attente croyante de 1890 qui tire la conclusion de son passage en 88 chez Bernheim. Ça montre que le transfert, c'est l'assujettissement du médecin, alors disons le médecin pour faire simple, de l'analyste par la parole de l'autre. Et la technique de Freud, c'est essentiellement cette prescription. L'analyse sera se déplacer d'une position, d'une place psychique à une autre, selon les besoins du patient. C'est ça la technique. La technique, c'est le fait que l'analyste n'a pas de place. L'analyste n'est pas installé dans un savoir. Il est au service de la parole de l'autre.
Oui. Mmh.
C'est Woody Allen qui disait, en attendant qu'on passe le micro, il a fait 30 ans d'analyse, « I had a place to go ». J'avais une place où aller. Voilà.
Mais peut-être que cette place, même si c'est un rôle tiers, où il va prendre, il n'a pas de place propre, mais... Enfin, si je vous comprends bien, hein. Il me semble qu'au fond, il n'est pas neutre non plus, il ne peut pas être neutre. Et il est interpellé aussi, peut-être comme personne, en fait. Et c'est peut-être ce que vous nous dites aussi, Marie.
Oui, c'est difficile de trouver des mots exacts pour dire ça. Et c'est vrai que le moi de l'analyste, enfin, il doit être de côté. C'est pas avec ça qu'il va travailler. Quand je disais que tout de même ça a été inventé par un médecin, Jacques, tu as tout à fait raison de me reprendre. Charcot, Bernheim, ils ont utilisé l'hypnose. Et l'analyse est née de ça. C'est même pour ça que je suis moi-même allée travailler 3 ans... ou 4 avec un psychiatre qui utilisait l'hypnose pour refaire le parcours de Freud pour comprendre d'où il était parti.
Après avoir été analysé par Lacan, Léon. Hein.
Pardon ?
Léon a été analysé par Lacan. Il m'a raconté ça, Léon Chatoc.
Mon patron ? Oui, mon patron d'hôpital, oui.
Oui. Je t'ai coupé.
Oui. Oui. Je crois que... Ah oui, tu m'as coupé, oui, ça c'est vrai. J'ai fait attention à ce que tu me disais et j'ai perdu ce que je pensais.
Ce n'était qu'une parenthèse.
Mais c'est pas grave, ça reviendra. C'est pas grave.
Vous disiez, le moi de l'analyste doit être mis de côté. Mais qu'est-ce qui doit être là ?
Oui.
Voilà. Ben oui, voilà, c'est exactement la question. Qu'est-ce qui doit être là ? Le sujet, on dirait le sujet, la personne elle-même, c'est pas la même chose que le moi. Mais tout ça, évidemment, on parle de choses invisibles avec des mots. Oui, on peut dire une présence, mais dans l'analyste, il y a plusieurs présences. Il y a son surmoi, il peut se dire, il faut que je sois comme ça, il faut que je fasse... que j'écoute, il faut, et au troisième il faut, le sujet est passé en dessous d'une autre instance en lui. Donc c'est une présence, oui, mais laquelle ?
Vous disiez en début de soirée que psychanalyse et spiritualité avaient arrêté de se regarder en ennemis. Est-ce si sûr aujourd'hui ? Finalement, quel psychanalyste s'intéresse vraiment à ces questions ? Je me souviens des deux Certeaux, enfin, il n'était pas analyste, mais ou Vergotte ou Bernard Hert, à part Julia Kristeva, qui s'intéresse aujourd'hui encore à ces questions, à votre avis ?
Tu réponds, Jacques ?
Je ne sais pas.
Écoutez, moi, de mon côté, je n'ai pas à me plaindre, alors je ne peux pas dire s'il y a des gens qui se dans ma profession... Oui, vous avez raison. Mais la première fois que j'ai publié un livre, je suis arrivée dans un congrès où il y avait des collègues. J'ai voulu venir prendre un café avec tout le monde et j'ai vu des gens me tourner le dos. Alors je me suis dit, il se passe quelque chose là. Donc c'était pas bienvenu, mais il me semble que ça a relativement évolué. C'est-à-dire, autant, et Jacques le soulignait d'ailleurs, je crois, dans un de ses articles, autant les collègues juifs retrouvent leur judaïsme ou vont à la recherche du judaïsme, autant c'est plus difficile du côté chrétien. Visiblement, là, il y a quelque chose, mais peut-être parce que notre compréhension des évangiles fait que c'est difficile à concilier. Je ne sais pas comment on va faire avec ça. Dolto avait déjoué les obstacles devant elle, mais il n'y a pas que cela. Et je vois bien que c'est beaucoup plus difficile de ramener le Nouveau Testament que la Bible juive dans un milieu de psychanalyste. Donc voilà, comment les choses vont évoluer, je ne sais pas, mais pour ma part, je continue de croire que les analystes ont intérêt à aller écouter ces textes. Mais vous savez, j'ai été frappée de ce que ce soit Freud, Jung, Lacan, ils ont tous dit que dans la formation des psychanalystes devrait rentrer la connaissance des religions. Et ça n'a pas l'air ils n'ont pas l'air d'avoir été très écoutés. Mais bon, c'est pas fini. Hein. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je partage un peu ton point de vue. Prenons l'exemple de Dolto. À partir du moment où elle a cessé sa pratique analytique, elle a accepté d'être un personnage public. Oui. À partir du moment où elle a renoncé à sa pratique analytique.
Tu parles de Dolto ?
De Françoise Dolto.
De Françoise Dolto.
Françoise Dolto, donnons un exemple. Là. Elle a accepté de commenter les évangiles, mais jusque-là, elle pensait que l'analyste, quelque part, doit être en réserve de ses positions personnelles. C'est-à-dire que on ne peut pas transférer sur quelqu'un dans la mesure où il affirme publiquement ses positions politiques ou ses positions religieuses. Ça devient de plus en plus quand même le cas, mais je pense que c'est regrettable. Il n'y a pas d'analyste juif, il n'y a pas d'analyste musulman, il n'y a pas d'analyste chrétien. D'ailleurs, l'analyste, ça n'existe pas. On est analyste pendant une séance avec quelqu'un et la séance suivante, on est différent. On n'est pas analyste en dehors de son fauteuil, en dehors du divan. L'analyse, c'est essentiellement cette relation dans laquelle on accepte de se laisser aliéner par l'autre. En dehors de ça, on est un citoyen. Alors on peut être enseignant, mais on n'est pas analyste. Ici, nous ne sommes pas analystes.
Oui, je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire que s'intéresser à des grands textes, ce soit imposer des opinions ou proclamer sa foi. Freud ne s'est pas privé de s'intéresser à toutes sortes de choses et de montrer ses options d'intérêt.
Tout à fait.
C'était pas des croyances, c'était... Moi, j'estime que si je lis le sacrifice d'Abraham et que, en lisant avec d'autres et en hébreu aussi, on trouve de nouvelles choses, je ne crois pas que ça invalide la place d'un analyste de faire cela.
Peut-être d'autres questions.
En lisant Lacan, en connaissant un petit peu Jacques Lacan, je me suis posé une question. Le psychanalyste cite souvent la Bible. Et par moments, j'ai l'impression qu'il y a presque une rivalité avec son frère et que dans son œuvre, on se retrouve à certains moments devant quelque chose qui se présente comme un nouvel évangile. Une nouvelle parole à faire surgir qui soit libératrice. Je me suis demandé si parmi les choses qui l'avaient poussé, il n'y avait pas ça.
Alors c'est plutôt c'est quand même une question. Alors est-ce que
réponse, je t'en prie. Tu connais mieux Lacan que Jacques Lacan que moi.
Le texte que je vous citais de L'Étourdi en 1972. Qui est une des dernières écritures, mais qui précède la conférence qu'il a faite à Rome en 1974 au congrès où je participais de l'école freudienne, Lacan s'est jamais mis en concurrence avec la religion, et je crois qu'il a toujours été fasciné par, en particulier par le catholicisme. Et en 1953, on a conservé quelques lettres qu'il a adressées à son frère. Il y en a très peu, il y en a 5, puisque Marc-François Lacan ne conservait pas le courrier. Mais en 1953, il doit aller à Rome pour un congrès déterminant, et il demande à son frère de pouvoir avoir une audience avec le pape Pie XII à l'époque. De même qu'il avait demandé à son frère d'intervenir pour qu'il puisse rompre son premier mariage et pour pouvoir épouser Sylvia Bataille. Donc, il y a indéniablement, pour Lacan, une forme d'attachement ou de fascination pour le catholicisme, c'est évident. Et de même que je crois que sa démarche est extrêmement proche de celle de Heidegger, de ses sentiers, il n'a cessé de penser nouvellement la réalité et la réalité psychique. Ça a été un chercheur permanent. Marie,
notre question, je crois, là. Monsieur.
Oui, moi j'avais une question. On parle beaucoup du psychanalyste, mais j'aimerais parler un peu du patient. Et notamment dans sa relation, dans la relation du, vous avez parlé de l'analyste comme troisième personne ou deuxième, enfin peu importe.
C'est une expression de Freud, hein, ça.
Oui, ben moi je suis comme Madame Balmarie, je comprends pas tout, mais c'est. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est la place de Dieu pour un croyant. C'est pas lui la troisième personne dans une analyse. Et qu'est-ce qu'on fait de cette relation qui elle-même est l'invisible, à proprement parler, dans une relation d'analyse où il y a quand même des expressions de souffrance, des expressions de non-dits, d'histoire, etc. Quel rôle joue Dieu pour un croyant dans une analyse, en tant que patient, bien évidemment.
Il faudrait qu'on s'y mette tous à la fois pour vous répondre, alors, parce que écoutez, je vais répondre comme une patiente là et pas comme une analyste. Ce que ça m'évoque, votre question, c'est les psaumes et l'usage qu'on peut en faire. Je vois 150 chants dans lesquels apparaissent à peu près tous les sentiments humains possibles. Ils sont tous adressés à quelqu'un. Et cette adresse permet, mais ça c'est peut-être à cause de la psychanalyse que je dis ça, mais permet non pas d'être exaucé comme je demande un bonbon et je reçois un bonbon, permet d'être exaucé d'une autre manière, c'est-à-dire si le désir peut, je dirais, muter ou se transformer, ça ne peut pas se faire sans qu'il soit d'abord adressé. Et donc, cette adresse à Dieu des pires sentiments, hein, que les bébés de l'ennemi soient claqués sur les murailles de... Enfin, on n'oserait pas, hein, si c'était pas dans la Bible, on se dirait... Bon. Ou que Jésus dise « Quiconque ne hait son père, sa mère, n'est pas, ne vaut pas pour être apprenti de jeu », si je traduis littéralement autant que je me souvienne. Ce sont des phrases d'une grande force, et les placer dans ce domaine-là, c'est en même temps les autoriser. Alors, moi, je crois que la présence de Dieu, dans le cœur de quelqu'un, elle va évidemment se transformer au cours d'une analyse. Parce que peut-être qu'il a... Enfin, je veux dire, si on avait un Dieu parfait, on viendrait pas voir un analyste. Moi non plus, j'y serais jamais allée. Bon. Donc, j'ai une relation de crainte, de je ne sais pas quoi. Et j'arrive chez l'analyste. Je vais transférer sur lui peut-être cette crainte, cette figure du père. Freud en a beaucoup parlé. Bon. Reste que dans les Écritures, ce qui est étonnant, c'est que on peut passer. Alors là, on retrouve ce qu'a dit Jacques tout à l'heure de la psychanalyse. On peut passer d'une place à une autre. On arrive craignant. Même si je reprends simplement « mon Dieu, en vue de quoi m'as-tu abandonné ?» C'est d'ailleurs, on dit « pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais en hébreu, c'est littéralement « en vue de quoi ?» Enfin, ce psaume va permettre d'adresser toute la peur, tout le déroulement même de la passion et dedans, ce qui est assez saisissant. Et on voit se transformer, comme dans le livre de Job, on voit surgir peu à peu le sujet qui parle. Et cette personne qui parle, peu à peu, trouve son assurance, parce que c'est cette personne-là qui a des frères. Tout d'un coup, le nom de Dieu change. On passe de Elohim au tétragramme. Et celui qui parle au tétragramme, il a des frères, on annoncera aux nations, etc. Donc il y a un changement de place et un changement aussi d'espoir, de vie, qui se fait dans l'adresse à quelqu'un. Alors je crois que d'un certain sens, ceux qui ont une grande connaissance de la Bible et une habitude de la prière peuvent en bénéficier particulièrement en analyse, d'un certain sens, parce que ils ont l'habitude d'adresser à quelqu'un ce qui vient. Voilà. Alors, évidemment, à condition que le Dieu ne soit pas le Dieu terrible.
J'aurais juste peut-être, je vous laisse la parole, mais quand même pour le prolongement, il y a quelque chose qui me titille quand même dans ce que vous dites, Marie. Je me dis, mais alors qu'est-ce que un croyant, qu'est-ce que cela change pour un croyant? Est-ce que ça change quelque chose de s'adresser à un accompagnateur spirituel ou de s'adresser à un analyste?
Je ne sais pas répondre à cette question. Que je me pose aussi, qu'est-ce que ça change? Simplement, je vois que pour interpréter un rêve, il vaut mieux aller voir un analyste. Je ne sais pas, au fond, parce que je ne suis pas accompagnatrice spirituelle. Mais c'est une question qu'on devrait creuser entre analyste et accompagnateur spirituel. Ça me paraîtrait de la plus haute utilité.
Monsieur, il y a une question.
Vous
voulez dire un mot? Oui, pardon.
Oui, j'ai la réponse.
Attendez, juste Jacques veut répondre, vous donner sa réponse et puis après on vous donne la parole. Oui.
Dans la mesure où la psychanalyse ne transmet pas un système de représentation, donc elle n'est pas de l'ordre de la transmission. Elle est de l'ordre de quelque chose qui est radicalement différent, qui est d'interroger le rapport qu'on a aux choses, les modalités d'investissement qu'on peut avoir, aussi bien de sa famille, de ses enfants, de son épouse, de son mari, que de Dieu. Donc évidemment, c'est un autre type de choses. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que la psychanalyse soit en concurrence avec la religion, soit en concurrence avec un accompagnement spirituel ou autre. On interroge le rapport, on réinterroge en analyse la relation qu'on a eue et qui par rapport à Dieu évidemment et qui est tout à fait liée à notre histoire familiale et aux projections qu'on a pu faire sur Dieu dans notre devenir. Donc c'est pas du tout le même registre et la psychanalyse n'est ni pour ni contre la religion. Elle est à l'écoute des modalités pour quelqu'un de ce que peut représenter la religion. Voilà, c'était un contrepoint à Marie.
Tout à fait.
Madame, là, et puis après, monsieur, ça fait longtemps qu'il veut poser une question, là. Allez-y, madame, et puis après...
Oui, sur le même sujet, je peux rappeler une phrase de Maurice Guillon, contemporain de Freud, qui disait qu'une analyse réussie menait forcément à la spiritualité.
Il me semble que Jung dit quelque chose comme ça.
Et puis je reviens sur le débat de tout à l'heure sur le rôle du psychanalyste, et donc là c'était Freud qui disait qu'il y avait deux métiers impossibles, celui de mère et celui de psychanalyste. Sur le fait que ce soit impossible, c'est un autre débat.
Pardon, on vous entend pas bien.
Parallèle entre les deux.
Oui, il y aurait en fait deux métiers, Freud a dit, mais, j'essaie de faire
encore... et psychanalyste. Ce qui laisse entendre que dans sa tête, il y avait bien mise au monde par le psychanalyste, une deuxième mise au monde. Et donc, je n'ai pas bien compris les différends entre Marie et Jacques Séda. Il me semble que vous dites la même chose. Quand Jacques Séda cite Lacan qui parle qu'il n'y a pas de tu s'il n'y a pas je, c'est-à-dire que l'être doit être perçu pour se donner le droit d'exister, il faut donc que celui qui écoute attende en quelque sorte son patient, et pas au tournant, mais lui donne l'autorisation d'exister. Et il me semble que Marie Balmarie dit la même chose quand elle dit que le psy n'est pas seulement une oreille qu'on paye. Et ce qui peut également rejoindre l'autre question, je dis ça tout ça dans le désordre, en passant donc par le transfert, le patient va transférer sur le psy toute sa misère et peut-être ses joies aussi. Le psy devient détenteur de l'histoire, à lui de gérer à travers son contre-transfert, et c'est là, à mon avis, que beaucoup de choses se passent. Est-ce qu'il, parce que le patient va fusionner, ayant confié toute son histoire.
Est-ce que le patient va, pardon,
fusionner? Peut-être.
Non, c'est une réalité. Mais c'est au psy, justement, de gérer cette fusion et là, d'avoir dans sa tête, alors, de ne pas garder le patient en lui, en quelque sorte, comme une, entre parenthèses.
Alors, on va dégager. Déjà, madame, ça fait beaucoup. Hein. Vous avez, il y a beaucoup de questions dans votre...
Elles se rejoignent. Et donc,
c'est bon, c'est pas fini. Donc je retiendrai peut-être au moins deux questions hein, sur dans ce que je discernerai deux questions dans ce que vous avez dit. D'abord revenir sur le rôle du psychanalyste, enfin, un métier impossible hein, comme être mère et être psychanalyste, deux métiers impossibles. Et puis sur la question du peut-être du transfert et du sens de la signification du transfert. Alors peut-être. Et contre-transfert.
Freud a évoqué trois métiers impossibles. Le politique, et on comprend pourquoi, enseigner ou éduquer, et psychanalyser. Je pense que par là, il voulait dire que ce sont des tâches toujours inachevées. Et donc, ce sont des tâches toujours inachevées, parce qu'elles sont au cœur de la relation et au cœur du conflit. Éduquer, diriger un parti ou un État, le conflit qu'on peut revivre au sein de la relation analytique montre évidemment que ce ne sont pas des choses qui peuvent s'achever. On peut terminer un roman, on ne termine pas une analyse. Parce que l'analyse, après le qu'on sait partir d'un analyste, on la poursuit soi-même, je veux dire. Donc, ce sont des tâches inachevables. Je crois que c'est en ce sens que Freud parlait de ces trois métiers impossibles. Ça, c'est déjà une première question.
Marie, tu veux dire un mot là-dessus?
Oui, je pense que tout ce qui est humain est à l'inaccompli. Hein, le nom de Dieu est à l'inaccompli dans la Bible, c'est « je serai qui je serai », on est dans le devenir, donc il est impossible de maîtriser, il est impossible d'enfermer. On est dans cette dimension de l'infini. Je suis moins pessimiste que Freud, mais c'est quand même, je crois, dans cette dimension. Alors, ah oui.
Ah, on oubliait vous oubliez le transfert et le contre-transfert. Peut-être, hein, Jacques, sur la signification du transfert.
Alors, moi, j'ai une définition du transfert, un peu à la Woody Allen. Le transfert, c'est des petits bouts de temps qui se déplacent dans le temps de façon intemporelle. Est-ce que c'est une définition qui vous... le transfert des petits bouts de temps qui se déplacent intemporellement dans le temps. C'est-à-dire que le transfert permet de revivre des situations passées et dans le moment même de la séance, eh bien, on ne sait pas toujours qu'on se déplace et à qui on s'adresse. Voilà un peu ce que c'est que le transfert avec un analyste.
Bonsoir.
Oui, attendez, monsieur, ça fait longtemps qu'il demande, oui, et puis après. Oui, d'accord.
Vous avez évoqué le rapport de Freud avec le judaïsme, et je reprendrai l'image du temple de Jérusalem, oui, détruit, et par rapport donc à la pérennité donc du judaïsme. Le judaïsme, en fait, est en quête de reconstruction du temple, et d'abord du temple intérieur. N'est-ce pas là toute la philosophie de la psychanalyse, dans la quête de l'harmonie intérieure ? Ce serait ma première question. Et dans cette quête, n'est-il pas nécessaire de prendre en compte son histoire individuelle, mais aussi toutes les composantes collectives et identitaires ? Et dans ce voyage, ne recherche-t-on pas d'abord alors la nature même de l'être ? Et ne découvre-t-on pas alors, je vais prendre un peu le contre-pied, une spiritualité qui est non religieuse ? Donc, la dernière question, la psychanalyse ne serait-elle pas un chemin vers une recherche de spiritualité laïque ?
Je crois qu'on va pouvoir organiser peut-être un cycle d'une dizaine de soirées, hein, si vous voulez, au Centre Sèvres.
Marie, tu commences ?
Alors, le temple intérieur... Comment, par quelle voie passer pour vous répondre, monsieur? Une harmonie intérieure, une harmonie, c'est peut-être pas le mot que j'emploierai, même si la musique est mon principal passe-temps, mais il y a quand même quelque chose qui est aussi à faire du côté de la religion. Il n'y a pas que nous qui avons à faire le chemin, je crois. Tout à l'heure, on parlait de concurrence entre la psychanalyse et la religion. Et je voudrais dire que ce débat et ce conflit entre deux peut être tout à fait profitable aux deux. Je ne me dépêche pas pour ma part que personne n'ait plus à critiquer ni d'un côté ni de l'autre. Je crois que ce serait la mort de tout le monde. Et en ce sens-là, l'idée d'une spiritualité laïque, est-ce que l'esprit, c'est laïque ou c'est religieux ? Je ne sais pas. L'esprit qui fait que quand on rêve, on est dans une situation, par exemple, où on a peur, on est dans la terreur, on vit dans la terreur de quelqu'un, un patron, un conjoint, non. Et on rêve des choses qu'on n'oserait jamais penser en étant réveillé. C'est de l'ordre de la vérité, c'est l'esprit non intimidable en nous. Vous savez, c'est comme dans le cantique, je dors et mon cœur veille. Le cœur veille très très bien la nuit. Alors ça, c'est laïque ou c'est pas laïque? Je ne sais pas. Je crois que plus on approfondit et l'inconscient et le religieux, je dirais pas que ça se rejoint, mais ça se parle, ça se raconte quelque chose. Et puisqu'il y a l'exemple qui me vient de « Je dors et mon cœur veille », vous voyez, c'est une phrase du Cantique des Cantiques, « Je dors et mon cœur veille », eh bien, elle est traduite dans la plupart de nos Bibles par « Je dors mais mon cœur veille ». Ça veut dire que le traducteur a barré la continuité de la phrase, la non-opposition, le fait que le sommeil pouvait nous amener quelque chose de l'ordre de la veille, eh bien le traducteur n'en a pas voulu de cela. Il a refoulé, si je puis dire. Alors ça peut être utile que les psychanalystes... C'est là que je disais qu'on aurait intérêt à travailler ensemble. Parce que l'intérieur du cœur de l'homme n'a pas envie d'être découpé en morceaux, mais en même temps, il a envie que des disciplines qui se parlent puissent s'en occuper. Peut-être c'est là qu'il y a du temple. Mais bon, je vous réponds comme si je faisais un poème et pas une réponse.
Comment entendre effectivement cette lettre de Freud à sa fiancée Martha, dont je vous relis le début et la fin. Parce que Jérusalem avait été détruite il y a bien longtemps vers cette époque, etc. Les historiens diront que si Jérusalem n'avait pas été détruite, nous autres juifs aurions disparu comme tant d'autres peuples avant et après nous. Ce ne fut qu'après la destruction du temple visible que l'invisible édifice du judaïsme a pu être construit. Moi, je crois qu'il y a là le socle de la civilisation occidentale par rapport au monde grec. D'ailleurs, c'est lorsque je disais « le grand pan est mort, le monde est dédivinisé », c'est-à-dire qu'il n'y a plus de présence réelle ici-bas. La présence réelle est inaccessible. On n'a plus contact direct avec le divin. D'où le grand pan est mort, d'où la panique. La panique qu'on trouve, par exemple, chez Hölderlin, lorsque dans un cri, un de ses derniers poèmes, dans ses derniers grands poèmes d'Hémosyme, il dit « Nous sommes un signe, un pur signe, en attente d'être interprété. J'attends que l'autre m'interprète. » Et ça, c'est à la fois, c'est pas de l'attente croyante, c'est tout proche de l'aliénation dont Edgar Morin donnait la preuve dans le fragment que je cite dans la revue Étude de ce mois-ci. Donc, la fin du temple visible, c'est le fait que nous sommes séparés. Séparés d'autrui, séparés du monde. Et ça, c'est la révolution qui a été opérée par le judéo-christianisme. Il y a un texte fondamental sur cette question, 1272. J'avais travaillé ça avec Maurice de Gandillac, le De Unitate Intellectu contra Averroistas. Je l'ai travaillé, comme je suis vice-président d'une association franco-tunisienne, donc je travaille avec l'islam un peu. Dans ce texte, saint Thomas signale la différence qu'il y a dans l'interprétation du De Anima d'Aristote. Est-ce que notre psyché, notre âme, est un fragment du grand tout, ou bien est-ce qu'elle est séparée? Pour les averroïstes, dans leur traduction arabe du De Anima, nous sommes un fragment du tout. Donc, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de panique. C'est lorsqu'on n'est plus un fragment du tout qu'il y a de la panique. Et ça, c'est la condition moderne.
Alors, on a juste le temps, malheureusement, d'une autre question. Donc, madame.
Ce sera très difficile, puisque vous avez déjà développé un certain nombre de choses.
Mais peut-être.
Heureusement.
Donc, il y en a une autre là-bas.
Non,
ah bon, quand même.
Ensuite, je dis juste dans ces dernières réponses.
Un peu plus
ces dernières
près.
Réponses.
Oui.
Ces dernières réponses. Alors, il y a quand même... ce qui est difficile, c'est que pour articuler la question de la psychanalyse à la spiritualité, vous passez par la philosophie. Je trouve que c'est quand même problématique. Une question, ça c'est une affirmation, une question, c'est pouvez-vous envisager la spiritualité sans une entité divine?
Sans une entité divine. Alors,
ouais. Oui, voilà une question qui nous laisse tous.
Mais c'est vrai que Marie, si on reprend votre petit Freud jusqu'à Dieu, ce que dit Madame, pour prolonger ce que dit Madame, c'est bien effectivement la philosophie joue un peu ce rôle de médiation. Au début de Freud jusqu'à Dieu. Quand vous dites la fin, vous reprenez, c'est un philosophe finalement qui vous interpelle sur cette question-là et qui posait lui-même la question, la psychanalyse est-elle un exercice spirituel? Et bien sûr, il faisait référence au travail de Foucault sur les exercices spirituels. Alors, cette médiation de la philosophie.
C'est un reproche que vous me faisiez à moi, madame ? Non, aux deux.
Un constat. Et en même temps,
c'est-à-dire que c'est quand même une question peut-être très difficile à articuler, parce que comme le disait Jacques Séda, c'est vraiment d'un autre ordre. C'est d'un autre ordre. La démarche psychanalytique, elle aboutit à la même chose, on va dire, d'une façon différente, à savoir qu'il s'agit d'humaniser et de devenir capable de relations véritables à l'autre avec sa différence. Or, ce que fait l'Évangile, la Bible, je ne connais pas bien, mais ce à quoi veut aboutir l'Évangile, c'est à ça, à sa façon, on y croit, on n'y croit pas, mais au niveau du texte, si on le lit avec attention, il propose cet effort-là. Donc il y a quelque chose en finalité qui y ressemble, et pour autant, quand on veut faire l'articulation, eh bien, on est obligé de passer par les philosophies, ce qui me laisse, moi, perplexe.
Moi, hein. Je ne trouve pas qu'on soit obligé de passer par les philosophies. Pour ma part, c'est plutôt par la lecture des textes bibliques et l'expérience d'une lecture en commun que je passe. C'est très différent. Et là, il y a un divin, en effet, qui est posé depuis le début. Au commencement, Dieu créa le ciel et les terres. Je veux dire... Non, c'est pas... Ah, mais c'est votre droit de le trouver, madame, c'est tout à fait. Mais simplement, je prends les Écritures comme un écrit. C'est comme un écrit qui raconte l'origine de la parole. Bon. Oui, tout à fait. Donc c'est très intéressant de le lire en soi. Je suis pas sûre que ce soit la philosophie. Vous savez, d'un certain sens, on pourrait dire qu'il n'y a pas de philosophie juive. Il passe pas par la philosophie. C'est passé par le récit biblique. C'est un autre chemin que celui des concepts. Il n'y a pas de concept en hébreu, d'ailleurs. Bon, mais voilà.
Par rapport à votre question, vous avez formulé quelque chose qu'on trouve chez Freud, parce que dans Moïse et le monothéisme, il dit que s'arracher à la masse compacte, la foule, c'est un progrès dans la spiritualité, Gastigkeit. Donc, il s'agit là pour Freud d'une... ça rejoint en 38, Moïse et le monothéisme, son intuition de 1882, lorsqu'il écrit à sa fiancée. S'arracher à la foule, ce processus d'individualisation est un progrès dans la spiritualité. Donc pour lui, il s'agit de quelque chose de laïque.
Bon, allez, l'ultime, parce que vraiment, vous levez le doigt tellement haut. Non, madame a déjà parlé, mais là, la dame là-bas...
J'ai été en analyse, vraiment cela m'aurait beaucoup gêné.
Est-ce que vous pouvez...
Le micro, ouais. Parlez bien dans le micro.
Ah bon, alors je vais redire oui, que merci. Par expérience, j'approuve tout à fait l'attitude de Françoise Dolto d'avoir écrit les évangiles selon la psychanalyse, peut-être je me trompe, parce que c'est très gênant pour une patiente ou un patient de savoir les orientations religieuses de son analyste. Et je suis croyante, mais je n'aurais pas aimé du tout. Voilà, c'est une expérience.
Bon, mais merci madame de votre de donner ce mot de la fin. Puisqu'il faut bien conclure. Et donc écoutez, je vous remercie donc beaucoup de votre présence. Ce qui m'a frappé, c'est la qualité de votre écoute. Et de la qualité de vos interpellations qui me donnent à penser que ce soir, il y avait du répondant. Nous avions la chance d'avoir des répondants et nous remercions donc beaucoup Marie Belmarie et Jacques Sébastien.